Vous écoutez RTL.
RTL dimanche soir, le MacPol
avec Philippe Robuchon.
Le MacPol, le magazine politique de RTL avec Olivier Mazerolle. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Décidément, cette campagne présidentielle ne ressemble à aucune autre. En deux semaines, trois acteurs majeurs de la vie politique sont passés à la trappe. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et cette semaine donc François Hollande qui renonce à se présenter. Quelle leçon pour les politiques, pour les médias, pour les Français? Vous nous direz Olivier dans un instant ce que vous en pensez. D'ici 19h, la nouvelle donne à gauche sera évidemment au cœur du MacPol. On va réécouter Jean-Christophe Cambadélis, il était l'invité du grand jury. Le premier secrétaire du PS a appelé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à participer à la primaire. Olivier Bost nous racontera les coulisses du voyage de François Hollande qui vient de rentrer d'Abu Dhabi. Dans notre débat, une question, si la candidature de Manuel Valls se confirme, comment pourra-t-il réussir à rassembler la gauche là où François Hollande a échoué? À droite aussi, on veut des nouvelles têtes. Dans la campagne en famille, on retrouvera les Leroy, pourtant sarkozystes de longue date. Cette fois, ils ont voté Fillon. Enfin, on sortira pour une fois des partis politiques. On va vous emmener à un meeting de la primaire citoyenne. Ni de gauche, ni de droite. Elle veut placer en orbite un candidat issu d'un vote sur Internet. Ils étaient 200 au départ, ils ne sont plus que 5. Et à la fin de l'année, il n'en restera qu'un. Le MacPol, c'est parti. Le nouveau président de la République, c'est dans 153 jours.
RTL dimanche soir, le MacPol.
Avec Philippe Robuchon.
Olivier Mazerolle, elle est vraiment complètement folle cette campagne. Sarkozy, dehors, Juppé, dehors, on peut même ajouter Cécile Duflot, dehors. Et puis surtout cette semaine, François Hollande, contre toute attente, qui renonce. Qu'est-ce que tout cela vous inspire?
Ça démontre que Nicolas Sarkozy n'avait pas tort quand il disait que les Français étaient un peuple régicide, qu'ils aimaient couper des têtes, ils en ont coupé trois d'un coup, et au plus haut niveau. Hein. Deux présidents de la République et un Premier ministre, c'est quand même pas mal. Et ça montre qu'il y a une envie de nouveauté, évidemment. Mais en même temps, il faut remarquer que les Français ne font pas n'importe quoi. La nouveauté, ça n'est pas, par exemple, Bruno Le Maire, qui a fait un faible score à la primaire de droite. La nouveauté, elle doit s'allier à une recherche également de l'expérience. Et François Fillon en a profité, tout simplement parce que jusqu'à présent, il était plutôt perçu comme quelqu'un qui avait joué les seconds rôles, donc qui ne méritait pas d'avoir encore la tête coupée, mais qui apportait avec lui l'expérience gouvernementale au plus haut niveau. Et donc, c'est la confiance qui lui a été accordée pour le moment.
Et François Hollande, ce renoncement?
François Hollande, on peut dire tout simplement
que... Très peu de gens l'avaient prévu, pour être honnête.
Tout à fait, oui. Ici même, je me souviens de vous avoir dit qu'on était pratiquement sûr qu'il allait se représenter. Peut-être était-ce vrai d'ailleurs à ce moment-là. Il faut bien lui reconnaître d'ailleurs qu'alors qu'on lui reproche d'avoir trop parlé aux journalistes, il a su garder pour lui sa décision. Seule petite indication que l'on ait eue, c'était au début de la semaine, lundi, après le déjeuner avec Manuel Valls, quand le Premier ministre est sorti tout souriant, ça semblait louche parce que c'est pas son tempérament de masquer ses sentiments. Et donc on a pu penser qu'à ce moment-là, François Hollande lui avait peut-être dit « je ne me présenterai pas ». Mais enfin, pas de certitude, mais pour en venir à la guillotine, puisqu'on coupe des têtes, la guillotine contemporaine est moins brutale, mais elle est quand même sévère, c'est le vote. Et ce sont les enquêtes d'opinion sur la popularité.
Alors, on va y revenir. On va commencer ce MacPol par un premier reportage sur, évidemment, les conséquences du renoncement de François Hollande. À gauche, toutes les cartes sont rebattues. Hier, à la convention de la Belle Alliance Populaire, les militants paraissaient complètement sonnés par cette décision. Gauthier Delon-Bugard, pour RTL, est allé les voir pour leur demander quelles leçons ils en tiraient pour la gauche. Croient-ils toujours au rassemblement et surtout autour de qui? Écoutez. Parole de militant.
Ce que l'autre président a annoncé jeudi soir, c'est vrai que c'est quand même une déclaration qui nous a touchés, car il ne méritait pas, je pense, tout ce dénigrement qu'il a subi depuis le début de son quinquennat. Pour moi, il sera un grand président de la Ve République.
Et moi aussi, j'ai été extrêmement touchée par son discours et je l'ai trouvé extrêmement courageux.
Comment va la gauche aujourd'hui?
Elle va mieux.
Elle va mieux parce que François Hollande n'est plus là?
Oui, je pense.
Mais cette décision est prise et maintenant, on a le devoir de se rassembler derrière le candidat qui sera élu à la primaire.
On parle de Manuel Valls depuis quelques jours. On se doute qu'il va y aller, après, sauf coup de théâtre. Vous en pensez quoi?
J'aimerais bien qu'il passe, qu'il aille. Parce qu'il peut rassembler.
L'enjeu, c'est
est-ce qu'on passe aux pertes et profits ce qui a été fait pendant 5 ans.
Et pourquoi pas Valls, le Premier ministre actuel, pour aller défendre ce bilan ?
Absolument.
Elle n'a pas ma faveur, sa candidature. Je pense qu'il a trop joué la division, la tension permanente. Donc je pense que ça va être compliqué pour lui de gagner.
Ça ne va pas être compliqué d'en rassembler toutes ces gauches, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de courants, social-libéralisme, une gauche plus traditionnelle. Comment on va faire là pour rassembler ?
On est aujourd'hui aux mêmes questions qu'on s'est posées en 86, en 93, en 2002. C'est-à-dire comment se réorganiser, quoi.
Ce qui fait peur dans un premier temps, ce sont des candidatures sans passer par la primaire, comme Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron.
Que ce soit le discours de Manuel Valls qui parle de gauche irréconciliable ou Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il ne s'inscrira jamais dans la primaire. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient une candidature qui rassemble et qui soit apaisée et qui ne soit pas sur des positions radicales ou sectaires. Alors du coup, j'ai un badge bleu-blanc-rouge sur la veste avec écrit « Le projet France », « Le projet en bleu » et « France en rouge », voilà, qui est le slogan d'Arnaud Montebourg pour cette primaire.
C'est le seul qui pourra faire justement l'équilibre entre le populisme de Mélenchon et entre la gauche de Macron ou de Valls.
Vous restez comment, combatif là, sur ces derniers mois? On garde de l'optimisme, on y croit?
Oui, on y croit, oui. On y croit et on est plus motivés que jamais parce que c'est le moment.
On est des vraies militantes, nous. Hein. On est des vraies militantes et on y croit jusqu'au bout. Hein.
Les confidentiels à présent du service politique de RTL avec ce soir Benjamin Sportouche. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Philippe.
On commence par François Fillon et un petit retour en arrière sur un moment crucial de sa campagne.
Eh bien oui, vous savez, il y a toujours un moment dans une campagne où ça se cristallise, hein, comme on dit en politique, où le candidat sent qu'il peut se passer quelque chose. Eh bien, pour François Fillon, ce jour J, c'était précisément le 11 novembre. On est à Mouilleron-le-Captif, c'est une commune de Vendée, c'est le département de Bruno Retailleau, l'un des principaux lieutenants de François Fillon. Les sondages commencent sérieusement à frémir pour l'ancien Premier ministre et signe qu'il ne trompe pas, le meeting est bondé, il faut pousser les murs. Pour François Fillon, c'est le moment décisif et lui qui est avare de confidences va en faire une de taille à son ami Retailleau. Pour la première fois, lui dit-il, je me dis que je peux me retrouver président de la République dans une situation exceptionnelle pour la France. Même le Vendéen, eh bien, n'en croyait pas ses oreilles.
C'était le 11 novembre dernier. François Fillon, toujours, qui pourrait accorder une place de choix à François Baroin.
Eh bien oui, François Baroin, qui était un soutien ardent de Nicolas Sarkozy. On sait, le fauteuil de Premier ministre lui était même promis. Mais avant d'être sarkoziste, eh bien, François Baroin était filloniste. Et même si François Fillon peut avoir la rancune tenace, c'est ce que disent ceux qui le connaissent bien, eh bien, selon l'un de ses proches, le maire de Troyes devrait décrocher une place importante dans son dispositif de campagne. Baroin est talentueux et fiable, explique un filloniste de poids qui n'entend pas s'en passer.
On change de François, on passe à François Hollande, qui ne passera donc ni par la présidentielle, ni par la primaire.
Eh bien oui, cette primaire de la gauche que le chef de l'État lui-même avait validée en juin dernier, confidence cache d'un ministre. À l'époque, explique-t-il, Hollande pensait pouvoir torcher la primaire au premier tour. C'était, Philippe, une autre époque.
Merci Benjamin. Prochain confidentiel demain matin, 6h50 sur RTL. On marque une première pause dans ce MacPoll. Dans un instant, les titres de l'actualité à 18h30 avec Céline Landreau. Ensuite, on va vous emmener dans les coulisses du voyage de François Hollande qui rentre d'Abu Dhabi. Ambiance un peu étrange, va nous dire Olivier Bost qui l'accompagnait.
Le MacPoll, Philippe Robuchon.
Bonsoir Olivier Bost. Olivier,
bonsoir.
Vous êtes rentré hier soir à Paris, vous avez accompagné François Hollande pendant 2 jours à Abu Dhabi, dans les Émirats. Une conférence sur le patrimoine en danger, le Louvre des Sables, une visite sur une base militaire, ça c'était le programme officiel. Mais évidemment, tout le monde voulait connaître l'état d'esprit du président après son annonce de jeudi dernier. Vous, ce voyage vous a laissé une étrange impression, presque surréaliste.
Déjà, pour comprendre ce sentiment, il faut voir le décor de ce premier voyage du président non candidat à Abu Dhabi. Ce sont de longues avenues désertes, entourées de belles pelouses et de palmiers qui font oublier qu'à quelques kilomètres, c'est le désert. Et de temps en temps, vous avez des gratte-ciels immenses, des prouesses d'architecture vues de l'extérieur et à l'intérieur, une débauche de marbre et de dorure. Que vous soyez dans un palais, un hôtel ou un palais des congrès, ça claque. Décalage assuré pour cette situation totalement inédite.
Oui, situation inédite comme la situation de François Hollande, pour qui il n'y a plus d'enjeu politique. Ça se ressentait dans le voyage ?
Bah d'abord, on a scruté le visage de François Hollande, bien sûr, à sa descente d'avion. Il semblait assez marqué, fermé, vendredi après-midi. Son entourage aussi, encore sous le choc de son renoncement. « J'ai toujours la gueule de bois », nous a confié l'un des membres de son équipe vendredi soir. Même ses officiers de sécurité semblaient marquer le coup. Pour tout le monde, c'est clairement le début de la fin d'une histoire. Mais il reste 5 mois et dès le lendemain, nous avons retrouvé un François Hollande plus avenant. Il n'avait jamais autant rappelé en une journée qu'il est le président de la République. Jusqu'en mai 2017, il s'est donné pour mission de protéger les Français, protéger de la droite et de l'extrême droite, donc il s'agira encore de politique. Mais c'est son dernier rôle, il le répétera sur tous les tons, au futur musée du Louvre d'Abu Dhabi, devant la communauté française, franchement pas venue en masse, et puis devant les militaires français qui frappent Daesh en Irak et en Syrie sur une base militaire. Et puis comme si François Hollande avait peur de disparaître du paysage politique, il est venu voir les journalistes juste avant de reprendre son avion pour Paris. Rien n'a changé, nous a-t-il dit. Président j'étais, président je suis, président je resterai. Le problème, Philippe, vous savez, c'est que quand vous êtes obligé de rappeler que vous avez le pouvoir, bah, c'est que vous l'avez déjà un peu perdu.
Merci, Olivier Bost. Olivier Mazerolle, à quoi ça peut ressembler ces 5 derniers mois à l'Élysée de François Hollande?
Ça va dépendre aussi des événements. S'il y a des événements malheureusement tragiques, comme des attentats, forcément François Hollande retrouvera un rôle prédominant. Il sera toujours effectivement à la barre en étant président de la République. Sinon, il est probable qu'il participera d'une certaine manière à la campagne présidentielle en rappelant les valeurs de la France telles qu'il les voit lui, l'identité de la France telle qu'il la voit lui, et évidemment il participera donc à l'appui du candidat de gauche. Bon, on verra si ça sera un atout ou pas pour le candidat de gauche, mais voyez-vous, François Hollande, marqué par son renoncement, comme le disait Olivier Bost, finalement ça le rend sympathique, ça le rend humain, c'est-à-dire ce côté un peu robotisé, implacable qu'il donnait François Hollande avec cette impression qu'il n'était influençable et influencé par rien, qu'il pouvait supporter toutes les avanies, et on s'aperçoit subitement qu'il est un être humain. Ben vous savez, les Français aiment bien ceux qui souffrent, donc il va remonter dans les sondages.
Alors avec ce nouveau paysage politique qui se dessine à gauche avec la candidature probable de Manuel Valls, quel rôle peut jouer le Parti Socialiste? Comment faire pour que la primaire en janvier ne soit pas une foire d'empoigne? Comment faire pour qu'elle profite à la gauche? Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, était à la mi-journée, l'invité du grand jury sur RTL. Il est d'abord revenu évidemment sur la décision de François Hollande.
Si nous voulons avoir une chance, il fallait casser le Hollande bashing. Et le président a fait sacrifice de sa candidature pour casser le Hollande bashing. Et maintenant qu'on a cassé le Hollande bashing, puisqu'il n'est pas candidat, on va s'apercevoir que son bilan vaut mieux que ce qu'on en disait. Vous savez, moi j'ai une analyse sur les raisons de l'impopularité. Ça tient à une ambiguïté qui s'est nouée au deuxième tour de la primaire de la gauche. Au deuxième tour de la primaire de la gauche, le président était plus bas qu'il ne le pensait. Et Arnaud Montebourg, qui était sur une ligne totalement différente du président, a appelé à soutenir François Hollande.
C'est la faute d'Arnaud Montebourg.
Donc, non, c'est la faute du fait que les deux lignes ont cohabité. Et à partir de là, s'est composé un gouvernement où il y avait les deux lignes, d'où les couacs, d'où les cacophonies.
Donc si on comprend bien, pour éviter la confusion à l'avenir, il faut que Manuel Valls, probable candidat, fasse campagne en assumant la loi El Khomri, le CICE, c'est-à-dire la fin de la vieille gauche.
Je crois qu'il va le faire. Mais je pense que, en fin de compte, cette primaire va dénouer quelque chose qui s'est noué dans la précédente primaire.
Alors, revenons maintenant à Manuel Valls quand même, qui va être candidat, bon, personne n'en doute. Alors, vous vous souvenez de Manuel Valls quand même, dans un livre avant 2012, où il disait « le mot socialiste est un mot prison ». Le Valls de la primaire 2012, qui mettait en cause les 35 heures et un certain nombre d'autres choses. Ce candidat peut incarner le Parti Socialiste et rassembler autour de lui?
Nous verrons bien. Il fera sa déclaration. Mais moi, je lui conseille amicalement, d'être sur une position nouvelle de rassemblement.
Vous lui proposez de se renier?
Non, il ne s'agit pas de se renier. Comme nous sommes sortis de la phase du Hollande bashing, que nous sommes sortis de la phase d'Alain Juppé déjà désigné, nous rentrons dans une nouvelle phase. Et il faut être soi-même, mais offrir une nouvelle perspective. Ce n'est pas la même chose quand vous êtes candidat à une primaire et quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Quand vous êtes candidat à une primaire, l'identification est forte. Quand vous êtes candidat à une présidentielle, le rassemblement est fort.
Mais là, justement, on est sur l'identification pour Manuel Valls.
Mais lui, il a plus besoin de le faire. Il est assez identifié comme ça. Maintenant, le rassemblement
donc
est
ça,
nécessaire.
Donc ça va être
mais prenons
flou.
Un exemple. S'il incarne cette gauche moderne, social-démocrate, qu'est-ce qu'il différenciera d'Emmanuel Macron ?
Ce sera Emmanuel Macron de le dire. Moi, je comprends Emmanuel Macron. Il a toujours été désigné. Il n'a jamais été élu. Donc, il a un peu peur de ce type de sélection, on va dire. Mais... j'ai envie de dire, Emmanuel, n'aie pas peur. On ne peut pas devenir président sans débat et sans combat. C'est essentiel que la primaire rassemble la quasi-totalité ou la totalité des candidats de gauche.
Voilà pour le replay du grand jury de Jean-Christophe Cambadélis. Dans un instant, le débat du MacPoll. On va justement essayer d'aller plus loin à propos de cette nouvelle bataille qui s'ouvre à gauche.
RTL, dimanche soir, le MacPoll, Philippe Robuchon.
J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
Je pense que c'était une allocution extrêmement difficile pour le président de la République.
La décision du président de la République est celle d'un homme d'État.
Il ne faut pas laisser croire que François Hollande aurait pris la décision qu'il a prise sous la pression, car ça n'est pas le cas.
C'est un énorme aveu d'échec. Et je crois qu'il ne faudrait pas que ça fonctionne comme une amnistie pour tous ceux qui ont participé à cet échec.
Une décision difficile et hautement courageuse qui lui vaudra la reconnaissance du peuple de gauche.
Christophe Jacubizine, LCI, bonsoir.
Bonsoir.
Guillaume Roquette du Figaro, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous avez rejoint avec... On vient d'entendre les réactions au fait principal, hein, au fait politique de la semaine, le renoncement de François Hollande, qui, pour le coup, lance une nouvelle bataille à gauche, hein, avant 2017. Alors, Manuel Valls, s'il se présente, quand il va se présenter, pourquoi réussirait-il à rassembler la gauche là où François Hollande a échoué ? Quelles armes a-t-il ? Quels atouts a-t-il qu'Hollande n'avait pas ?
Parce que il ne veut peut-être se convaincre que, dans cette fin de quinquennat catastrophique, il y a un problème d'émetteur plus que de messages. C'est-à-dire que c'est la personne de François Hollande qui est rejetée, mais que finalement, le bilan n'est pas si mauvais que ça. C'est d'ailleurs l'idée que François Hollande a voulu imposer dans son intervention, où sur les 10 minutes, il a passé 7 minutes à dire, à l'exception de la déchéance de nationalité, notre bilan est formidable, ce qu'on a fait c'est très bien, Jean-Christophe Cambadélis l'a répété au grand jury tout à l'heure, il n'y a pas de problème de bilan. Est-ce qu'il va réussir à convaincre les Français de ça ? C'est autre chose.
Olivier.
Il a beaucoup de handicaps à surmonter parce que, évidemment, les partisans de François Hollande, en tout cas un certain nombre d'entre eux, ont envie de lui faire un procès en trahison. Les amis de Martine Aubry ne peuvent pas le souffrir, mais ils ne peuvent pas souffrir non plus Arnaud Montebourg. Donc, ils vont bien avoir un problème de choix. En fait, Manuel Valls, s'il veut réussir, il doit retrouver le lien avec les Français qui était le sien avant qu'il ne devienne Premier ministre, c'est-à-dire le combattant, le politique qui n'a pas la langue de bois, qui se dégage finalement des dogmes et de l'emprisonnement que lui impose un parti politique. Alors, c'est à double tranchant. S'il réussit ça, s'il parle directement aux Français, il peut redevenir populaire et à ce moment-là, disons que peut-être le PS se dira « Bon, bah, puisque finalement, il est en passe de reconquérir sa population, popularité, allons-y. Mais évidemment, ça ne va pas se faire simplement.
Christophe Jacobi.
Il a beaucoup de handicaps, objectivement. D'abord, celui du bilan. Son bilan, celui de François Hollande, c'est le sien. Le fait d'avoir été, comme l'ont rappelé Olivier, le traître, le Brutus, quand même, un des Brutus.
Oui, il y en a pas mal des Brutus.
Il y en a pas mal de François Hollande. Donc ça va quand même être compliqué. Après, il peut être effectivement très bon en campagne. Voilà. Je ne sais pas s'il n'a pas quand même un agenda caché. Si son agenda, c'est pas vraiment la présidentielle, c'est plutôt l'après. Voilà. L'idée, c'est quand même de se refaire un petit peu avant l'échéance de la présidentielle. Je pense qu'il est suffisamment lucide pour savoir quand même que ça va être très compliqué ensuite de l'emporter à la présidentielle.
Oui, parce que sur le fond, il est pris entre deux injonctions totalement contradictoires. D'un côté, il faut qu'il fasse campagne pour montrer qu'il existe par lui-même et que donc il ne se confond pas avec François Hollande. Et là, on imagine qu'on va retrouver le Manuel Valls qui dit il y a deux gauches irréconciliables, qui va défendre la loi El Khomri, qui va être sur une laïcité dure. Et ben voilà, et ben justement. Mais le problème, c'est qu'il doit aussi rassembler sur son nom et pour ça, faire preuve de consensus. Alors, il y en a un qui avait refusé cette deuxième option et qui avait privilégié la première, c'était François Fillon, qui avait dit « Non, moi j'ai des propositions, elles sont fortes, c'est à prendre ou à laisser. » Ça a réussi à Fillon. C'est peut-être ça la porte étroite pour Manuel Valls.
Les gens qui vont aller voter, le trou de souris. De la gauche, c'est forcément des sympathisants de gauche et qui vont, à mon avis, soit donner un signal de barre à gauche. Et on sent pas, voilà, je pense que Valls est meilleur, effectivement, dans un combat présidentiel où là, franchement, c'est une bête de scène et en plus, il a des idées qui peuvent justement susciter l'adhésion d'une plus large partie des Français. En revanche, sur une primaire de la gauche, du Parti Socialiste, voilà. Ah, bah, oui. Il peut la remporter parce que
il peut la remporter quand même, parce qu'il n'y a pas plus de candidats qui s'imposent, évidemment.
Ouais, moi, je vois plutôt l'émergence de candidats. Je pense qu'un Montebourg, voire un Hamon, peut davantage incarner aujourd'hui ce désarroi du peuple de gauche qui a envie de redonner un signe. Si on doit chercher un fillon dans cette primaire de la gauche, il faut plutôt aller voir du côté de Hamon.
Bien sûr, non, mais vous avez raison. Mais ça n'est pas gagné d'avance non plus. Disons qu'on ne peut pas dire au départ, sur la ligne de départ, il y en a un qui semble s'imposer d'évidence.
Mais il y a quelque chose qui est intéressant, vous en avez parlé avec Jean-Christophe Cambadélis au Grand Jury, c'est que la primaire de 2011 n'avait rien clarifié du tout sur la ligne politique du PS. On a l'impression qu'on retourne exactement dans la même direction.
C'est évidemment le risque, parce que si Manuel Valls l'emporte, Arnaud Montebourg ne sera pas du tout content, et par conséquent, il y aura toujours une opposition au sein du PS, même si Manuel Valls parvenait à concrétiser une majorité. Et à l'inverse est vrai également, si c'était Arnaud Montebourg qui était le gagnant, il n'aurait pas non plus l'ensemble du Parti Socialiste
avec
lui.
Sauf que la politique fiction, ce qui est amusant, par rapport à ce que disait Olivier, c'est que si Valls l'emportait à la présidentielle, il aurait du mal à avoir une majorité, et il serait peut-être obligé d'aller chercher une autre majorité que justement celle de François Hollande, c'est-à-dire d'une gauche. Un autre Macron.
Ah. Tiens, justement, ça sera la dernière question. Est-ce que finalement, l'adversaire numéro un de Manuel Valls aujourd'hui, ce n'est pas Emmanuel Macron?
Oui, parce que Emmanuel Macron, qui a 15 ans de moins que Manuel Valls, je crois, c'est presque une génération, il est quand même le mieux placé pour incarner à la fois cette gauche moderne, qui on voit bien plaît, même si Emmanuel Macron dit que les concepts de gauche et de droite sont dépassés, et puis Emmanuel Macron est parti à claquer la porte du gouvernement avec suffisamment de force pour pouvoir dire Hollande et moi, c'est pas la même chose. Ça va être beaucoup plus compliqué pour Manuel Valls.
Et symétriquement, quand même, le pire des candidats socialistes pour Macron, c'est quand même Valls. C'est-à-dire que si c'était pas Valls, si c'était Hamon ou Montebourg, ça laisse un large champ pour Macron. Et là, ça sera intéressant. Si c'est Valls, comme le disait Guillaume, c'est compliqué.
Oui, et puis Valls, il a été Premier ministre. Maintenant, il a l'expérience du gouvernement. Et on voit quand même à la primaire de droite que les électeurs de droite, en tout cas, n'ont pas voulu rajeunir forcément. Ils ont voulu balayer ceux qui avaient déjà tenu les premiers rôles, mais ils ont gardé quelqu'un qui passait jusqu'alors pour être un second, mais qui lui aussi avait l'expérience du gouvernement.
Voilà, suspense continue une fois de plus. Merci Olivier, à tout de suite. Merci Christophe Jacubizine et Guillaume Roquette. À dimanche prochain.
À dimanche.
À dimanche.
Alors Hollande, Sarkozy, Juppé, on le disait tout à l'heure Olivier, en deux semaines, trois acteurs majeurs de la vie politique sont passés à la trappe, en tout cas de la trappe présidentielle. Illustration de cette volonté de renouveau avec le reportage de la campagne en famille. Cette semaine, RTL est retourné voir les Leroy qui habitent Paris, 15e arrondissement. En début de saison, cette famille nous avait dit tout le bien qu'elle pensait de Nicolas Sarkozy. Et bien là aussi, désir de changement puisqu'au deux tours de la primaire à droite, elle a voté Fillon. Reportage signé Céline Landreau, Alice Moreno.
La campagne en famille.
Et si on en parlait ?
Nous retrouvons aujourd'hui la famille Leroy. La dernière fois, ces pro-Sarkozy avaient évoqué le malaise des policiers.
Et cette semaine, Martine et sa famille reviennent sur le résultat de la primaire à droite.
La droite a donc choisi son chef. François Fillon recueille 66,5% des voix contre 33,5% pour le maire de Bordeaux. Fillon déjà dans le costume de candidat.
C'est une victoire de fond bâtie sur des convictions.
Je suis très contente que Fillon soit passé.
Martine, retraitée.
Fillon a correspondu à la France profonde dont on fait partie. Pour une fois, on est satisfait.
Oui, moi je suis content que
Daniel, son mari.
Le peuple s'est décidé à sortir de son mutisme pour faire un vote massif qui peut très bien être avec une tendance réac. Mais cette tendance n'est pas mortifère.
Oui. Le plateau réac a été content de s'exprimer pour une fois.
Ouais, mais je suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai discuté avec des gens qui votaient Fillon. On n'est pas des cathos réac.
Mathieu, auto-entrepreneur dans le tourisme.
La droite réac, c'est peut-être la droite qui travaille dur, qui a du mal à s'en sortir. Des petits patrons qui ont vu en Fillon peut-être une politique plus adaptée à leurs soucis quotidiens. Moi, j'étais très pro-Sarkozy. J'étais derrière lui jusqu'à deux semaines avant le premier tour, quand il a dit qu'il voterait Hollande. S'il y avait un deuxième tour, Hollande-Le Pen, ça m'a complètement effondré. Et j'ai voté Fillon.
Oui, moi, je suis comme mon fils. J'étais derrière Sarkozy. Je me suis dit, finalement, il refera les mêmes erreurs.
Je trouvais que Sarkozy, il avait quand même un charisme par rapport à d'autres hommes politiques.
Antoine, le petit-fils, lycéen.
J'ai regardé le discours de François Fillon lors de sa victoire, c'était pas hyper expressif.
C'est en retenue. Tout est en retenue.
François Fillon.
Fillon sait mieux que personne que 5 mois à l'avance, les sondages peuvent se tromper, mais c'est un fait. Notre enquête le place en position de grand favori.
29% d'intention de vote au premier tour d'après Kantar Sofres One Point. Marine Le Pen recueillerait 23% des voix.
C'est incroyable. Tout le monde en parle comme s'il était déjà président.
En même temps, il n'a pas de véritable concurrent. Marine, tout le monde sait qu'elle passera pas peut-être au premier tour, mais enfin au second tour jamais.
Fie-toi, on disait ça de Fillon, on disait ça de Trump, on disait ça du Brexit. Méfie-toi de ça. Sur la sortie de l'Europe, il y a un seul personnage politique qui en parle aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. La Cour européenne des droits de l'homme impose ses arrêts aux États, et aussi bien sur des sujets de l'immigration que sur le sujet de la GPA, du mariage pour tous. Moi, le premier homme politique qui me dit qu'il va falloir qu'on prenne nos distances avec l'Europe, je le suis.
Je ne sais pas si c'est une bonne chose de sortir de l'Europe. Moi, ça me ferait bizarre de retourner aux francs, d'avoir des frontières.
Ça, je suis bien comme toi. Ah, franchement, je trouve ça complètement rétro.
Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, imaginez quel serait le résultat des présidentielles. Il y a déjà des sondages qui sont sortis où ça donne une petite tendance, mais
On peut pas savoir ce qui va se passer.
De toute façon, là, janvier, il y aura les primaires de gauche.
Moi, je vais aller voter.
Tu dis ça pour rigoler?
Pas du tout, j'irai voter.
Ah ouais, non, moi, je suis pas d'accord. Moi. J'étais pas d'accord pour que les gens de gauche aillent voter à la primaire de droite. J'irai pas voter aux primaires de gauche.
On peut très bien donner notre avis.
Comme ça aussi, les gens de droite peuvent un peu choisir un adversaire à leur...
Ouais, à leur goût. On attend, c'est le suspense.
Martine attend donc de connaître le casting complet des candidats à gauche pour choisir le meilleur adversaire face à François Fillon.
La campagne en famille.
Et si on en parlait ?
Voilà, reportage cette semaine signé Céline Landreau, Alice Moreno. Petite pause dans le MacPol, on va au stade Vélodrome. C'est fini, Dimitri Moulin, belle victoire de l'OM.
Oui, large victoire, 3-0 pour l'Olympique de Marseille face à Nancy. Les buteurs Thauvin, Gomis et Ngé.
RTL, dimanche soir.
Le MacPol, Philippe Robuchon.
Olivier, pour refermer ce MacPol, on va évoquer un sujet dont les grands médias en général parlent peu, les primaires citoyennes. Elles s'appuient sur un sondage. 44% des Français considèrent que les partis politiques sont inutiles. C'est pas moi qui le dis, c'était un sondage Harris en mai dernier. D'où un scrutin d'un genre nouveau sur Internet, comme celui de la primaire.org. 215 citoyens lambda s'étaient inscrits au départ, ils ont proposé un programme, 100 000 personnes ont donné leur avis, elles ont sélectionné les meilleurs, résultat aujourd'hui ils ne sont plus que 5, et le gagnant sera connu à la fin de l'année. Ces finalistes participent à des débats, des vrais débats, hein, pas sur Internet. Cette semaine, ils étaient à Aix-en-Provence. RTL est allé les voir. Hasard du calendrier, c'était le soir de l'annonce de François Hollande. Reportage signé du correspondant de RTL en région PACA, Étienne Baudu.
Les trois candidats à cette primaire présents jeudi soir n'ont pas interrompu leur échange avec le public pour écouter François Hollande. Ils ont appris la nouvelle à leur descente de l'estrade, pas vraiment bouleversée d'ailleurs.
C'est bien, ça lui évitera tout simplement de se ridiculiser parce que c'est un peu ça, il est toujours le chef de l'État malgré tout.
Bon, j'irai pas jusqu'à dire courageux parce que je pense que c'est responsable.
Au moins, il a la décence de pas y aller. Quand on est élu, lorsqu'on a échoué, on doit pas briguer un nouveau mandat.
Et on l'entend au centre des préoccupations des cinq candidats, le retour à l'éthique en politique, l'émergence de nouvelles têtes, remettre le citoyen au centre de leur projet. Ils sont avocats, professeurs, formatrices, il y a deux médecins. Ils ont entre 30 et 58 ans. Ils viennent des quatre coins de la France. Alors jeudi soir, pas question d'un meeting, non, c'est un débat participatif où les différents candidats répondent au public. À Aix, environ 150 personnes de différents horizons. Et les propositions sont iconoclastes pour certaines. Roxane Revon, 30 ans, professeure et metteur en scène, elle habite Paris.
Notre projet propose notamment d'avoir un référendum à choix multiples pour moraliser la vie publique française. Des questions telles que, combien pensez-vous qu'un citoyen doit faire de mandat dans sa vie, 1, 2, 3, et puis là ça va renouveler vraiment, parce que quelqu'un qui fait juste 15 ans de politique dans sa vie, ensuite doit retourner à la vie active, donc c'est intéressant. Cumul des mandats, même chose. Casier judiciaire, même chose. Et je peux vous assurer qu'en faisant passer un truc comme ça, déjà à mon avis, il y a la moitié de la classe politique qui saute.
C'est aussi la création d'un revenu citoyen universel ou encore réformer les institutions. Michel Bourgeois, 42 ans, est médecin à Villeneuve-sur-Lot.
Réformer alors soit le Sénat, de créer un Sénat citoyen, soit de modifier la Constitution pour arriver à avoir une Assemblée nationale composée à la fois de citoyens et d'élus. Au niveau des lois, déjà, il y aurait un avis citoyen systématique, du coup, hein, grâce à ce système.
Lui propose aussi la refonte totale du système de santé en regroupant toutes les caisses d'assurance maladie, fini par exemple le RSI indépendant. Alors dans le public, tout de même, certains s'inquiètent des qualifications des candidats. Roxane répond, elle a étudié la philosophie à la Sorbonne, puis l'économie à Stanford, aux États-Unis.
Un citoyen, c'est pas forcément quelqu'un qui sait rien, c'est aussi des experts.
et s'il ne pense pas être président ou présidente lorsqu'il se rase ou qu'elle se maquille. En revanche, toutes et tous ont l'espoir d'obtenir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. David Guèze est l'organisateur de cette primaire.
Les maires de petites communes essentiellement, et pour avoir été au salon des maires, au salon des femmes élues, ils sont assez sensibles à l'initiative. Alors évidemment, avant de dire je vais donner mon parrainage, ils attendent de voir qui va être le ou la vainqueur de la primaire.org.
Réponse le 31 décembre pour le réveillon. L'occasion, ironise David Guèze, de réveiller les esprits et de secouer les vieilles pratiques politiques et politiciennes.
Voilà, reportage Étienne Baudu cette semaine à Aix-en-Provence. Olivier, il nous reste 45 secondes. On va juste parler de l'agenda politique de la semaine à venir avec cette grande question. Manuel Valls, quand ?
Deux de ses amis m'ont dit « Soyez vigilants lundi matin ». Alors on verra bien, ça vaut ce que ça vaut, hein. Bon, rien n'est sûr.
On ne va pas se lever trop tard alors. Deux autres événements.
Pas forcément à l'aube quand même.
Non, bon. Il y a toujours le déjeuner
Déjeuner, voilà, ça pourrait être le timing. C'est-à-dire il est candidat et puis ensuite il rencontre François Hollande et il présente sa démission.
Samedi prochain, Emmanuel Macron promet une démonstration de force. Grand meeting à Paris au Parc des Expos, porte de Versailles. Et puis dimanche, Olivier, au Grand Jury, vous recevez Marine Le Pen.
Marine Le Pen, qui n'a pas beaucoup parlé ces derniers temps, eh bien, ça sera l'occasion pour elle d'effectuer une sorte de rentrée.
Merci Olivier Mazerolle. C'est la fin de ce MacPol à 18h59 sur RTL. Dans un instant, les titres de l'actualité. Juste après, les dessous de l'écran. Tiens, on va parler de la chaîne de télé française la plus regardée dans le monde. France 24. 50 millions de téléspectateurs chaque semaine. Elle fête ses 10 ans. A tout de suite.
RTL dimanche soir.
Le MacPol.